Mon exposé va plus consister sur la partie quelles alternatives par rapport à ces accords de libre-échange, mais par rapport à l'introduction qui en était faite, quand on parle de l'alternative, et ça a été soulevé hier, bien entendu, tout ça, c'est dans, on ne peut pas différencier la résistance aux accords de libre-échange avec les alternatives, et c'est effectivement un va-et-vient constant entre quels sont les systèmes qui se mettent en place, comment se réapproprier l'imaginaire collectif qu'on défend par rapport à ces accords de libre-échange et la lutte au quotidien contre ces accords, les luttes des mouvements sur place, mais y compris au niveau institutionnel, au niveau de la stratégie, comme on a pu voir. D'ailleurs, sur la question des investissements, de la politique d'investissement, je pense qu'il y a... Enfin, on pourrait en reparler dans le débat, mais en ce moment, l'Union européenne redéfinit sa politique européenne d'investissement, donc il y a un levier aussi à ce niveau-là de faire prendre conscience du poids de ces accords d'investissement en termes d'architecture d'impunité des multinationales qui est... Enfin, nous, quand on a eu l'occasion d'en parler avec le gouvernement français, ils étaient pas au courant. Enfin, ou soi-disant pas au courant. Donc il y a vraiment tout un enjeu de démonstration des impacts de ces accords-là et du pouvoir que ça donne. Et c'est ce va-et-vient sans cesse que nous, on essaye de faire, en tout cas au sein de l'ETEC. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, effectivement, qu'on a développé une campagne, si on peut dire comme ça, sur les alternatives portées par les mouvements du Sud, qui s'inscrit, en fait... dans un premier travail d'analyse sur ce qu'on appelle l'initiative de l'Union européenne sur les matières premières. C'est-à-dire qu'en 2008, l'Union européenne a adopté une initiative visant, clairement, hein, enfin c'est dans les textes, à sécuriser l'accès des entreprises européennes aux matières premières situées dans les pays du Sud. Alors bien sûr, il y a deux autres piliers à cette initiative, mais le seul pilier qui est vraiment réellement mis en œuvre aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc on a développé toute une analyse critique et en essayant de peser au maximum, en expliquant qu'est-ce que ça voulait dire là-bas, c'est-à-dire la perte de souveraineté des pays, en l'occurrence là, des pays du Sud, sur le contrôle de leurs ressources naturelles. Et derrière, le deuxième volet, si on peut dire, de ce travail-là a été de dire, bon, mais essayez de, par rapport à ce combat qu'on mène là, de mettre en avant qu'est-ce qui est porté par les mouvements, le pendant de cette marchandisation des ressources naturelles, qu'est-ce qui se développe. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a fait appel à plusieurs partenaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine sur des thématiques allant de la question du droit à l'eau, de la question de l'intégration régionale, de la question de l'extractivisme, qui est un sujet assez compliqué hein, sur ces questions-là d'ailleurs, et sur la question de l'agriculture. C'est l'objet du rapport que certains ont dû avoir entre les mains, celui-ci. Qui rassemble toute une série de contributions et ce que je me propose pour en faire un peu une synthèse, présenter assez rapidement ces réflexions, c'est de projeter une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Alors c'est pas les personnes qui interviennent dans la vidéo sont pas forcément les personnes qui ont contribué au rapport, mais qui traitent en tout cas de ces thématiques. Et puis après je veux bien revenir sur quelques-uns des cas et puis continuer le débat sur comment aborder cette question sur les alternatives.
Alternatives being built everywhere. Of course, we don't have one hegemonic alternative to replace the capitalist system, but we have a lot of diverse local systems that are respectful, are culturally appropriated, and are autonomous and emancipatory systems.
We believe there are alternatives, and we believe that the alternatives are there, which are not being looked into.
Thank you. most African countries is the fact that land is being taken out of food production to produce fuels for cars. And this is a result of the EU mandates. And again, also, the rush of our rich nations, especially the EU, the US, coming in to buy lands to grow food crops, not for domestic consumption, but for exports, is also a major problem. The EU were looking into Africa. They're looking into buying farmlands. Africa became a speculative paradise where, it's going to be like the experimentation field.
And they do not correspond to the necessity of peoples. They correspond to the necessity of markets, whatever those abstract entities are. So one very basic would be European Union be restrained to its own territorial extension, the sense of its agriculture policy and renewable energy policy, because otherwise it's more sophisticated, but it is still a new form of colonial land acquisition and demand.
We need to rethink the whole policies and the whole food system so that we start thinking food in terms of people, not in terms of commodity or derivatives. Food in terms that sustain the environment, not sustain some business interest.
We have the understanding that food sovereignty is based on local, diverse, autosufficient agricultural systems. And so it's essentially for the sense of a structural change in this economy right now that we address truly the proposal of food sovereignty and the proposal of relocalize and shorten the circuits of agri-food trade in the world.
Privatization has been tried. What has happened is a public good became a private good. Now that is an ideological position. But if you see in practical terms, it became expensive. So the commodity of water, which was reasonably available and at a price to common people, and even there you have problems. But when you get privatized, the price is increased exponentially. Each individual has a right to water, and that cannot be given. It is a right that is there. When communities looked at these water bodies, they looked after them. It's not only the communities were using the water bodies, they were also maintaining it. Now that all fell into disuse because the government said it belongs to us. And then the government did a bad job and says, okay, the government can't do it, give it to the private sector. But the community did a damn good job. So what we believe is that decentralized processes involving the community are the best solutions for these common goods.
Actualmente son empresas coreanas o empresas japonesas o de Unión Europea que llegan y se instalan en terrenos comunales, agotan el agua, contaminan, ¿no?, el medio ambiente y les dejan toda la factura de destrucción a las poblaciones locales, le dejan un pago al Estado y se van, ¿no?
Por ejemplo, en Colombia, las zonas mineras están ubicadas en los territorios indígenas y desarrollar y sacar esos productos, esas materias primas de nuestro país implica desplazar a las comunidades, generar desplazamientos forzados. La Unión Europea predica de unos principios ambientales, por ejemplo, de unos principios laborales o de unos estándares internacionales que aplican en Europa, pero que no aplican en países del sur. Es decir, hay un doble estándar en la forma como se manejan las inversiones, como se manejan los negocios y las relaciones comerciales con nuestros países.
Entonces es necesario hacer un esfuerzo por ver de qué manera el aprovechamiento de estas materias se traduce también en beneficios concretos para las poblaciones y evita la destrucción del único espacio que estas poblaciones tienen para vivir.
Es decir, que si se van a hacer grandes obras de infraestructura o si van a hacer explotaciones de industrias extractivas o de recursos naturales, hay que preguntarle a la población que vive allí si realmente ellos quieren hacer esas actividades productivas y si las hacen en qué condiciones y si realmente eso los va a beneficiar o no. Eso se llama en el derecho internacional el derecho a la consulta. Yo lo que creo es que si se hace, digamos, un comercio más justo entre los países del sur, con sus propias empresas, si se promueve la industrialización y la generación de riqueza propia, hay más posibilidades de tener modelos de desarrollo, digamos, que permitan avanzar para superar la situación de pobreza. Si nuestros países están condenados a ser eternamente proveedores de materias primas baratas, estamos condenados a seguir siendo pobres por siempre.
The present trade relations between Europe and our region can be illustrated with the economic partnership agreements which negotiations are underway. But when we are negotiating IPAs, we are not negotiating as SADC. There are different groupings that have been put up in the negotiations. So it has the effect of working against the integration of the region, that is by volution of the countries in the region.
E impiden que los países del sur actúen como bloque. Y obviamente eso tiene que ver con hacer negociaciones bilaterales en condiciones de mayor debilidad y de mayor asimetría económica y política con los países del sur.
If it is advantageous for the European countries to come together, negotiate trade agreements as a bloc, have a common currency, the euro, why should that arrangement not work for Africa? So in as much as European Union sees the logic of coming together as a regional bloc, this is the same logic that we see ourselves as Africa coming into our own regional blocs with autonomy and sovereignty.
The EU is taking the political spaces of our country, and our voices are being drowned, and our people are not being heard, the farmers are not being heard. So we need to take back these spaces so our voices can be heard and good policies which benefit people and not corporations will be implemented.
It's not a question of you thinking what the solution should be. It is thinking along with the people what are the possible things that can be done.
Let's put human interest first and profit second.
Donc, je vais reprendre. Déjà, juste pour conclure sur cette vidéo, c'est... Enfin, ça a été compliqué d'ailleurs de la faire. parce que y a des points de vue différents, des approches différentes sur ces questions-là. Et donc moi je tiens vraiment à signifier que c'est pas forcément les paroles de l'ETEC qui sont retransmises par cette vidéo, mais en tout cas une diversité de points de vue sur les questions des alternatives, sur les questions de voilà, quelle stratégie on peut avoir en place par rapport à pour défendre d'autres modèles qui en plus articulent différentes échelles. On a à la fois les expériences locales, les expérimentations au quotidien, et puis il y a d'autres réflexions sur plus sur les modèles économiques et sur la question de d'autres modèles de développement avec voilà, qu'est-ce que quel principe fondamentaux on défend derrière. Et donc c'est cet enchevêtrement entre les différentes échelles qui des fois est pas facile à manipuler dans cette question des alternatives. Et justement, je voudrais revenir sur le cas de l'extractivisme, et notamment en Inde, pour mentionner une des contributions qu'il y a dans ce rapport sur une bagarre qui a été menée par les mouvements sociaux, certains mouvements en Inde sur la question de minière et qui ont réussi à pousser, alors avec des années de lutte bien sûr derrière, mais sur l'adoption d'une réforme du code minier en Inde en 2011 qui inscrit des mesures de sauvegarde en tout cas vis-à-vis des droits des populations locales par rapport à l'implantation des projets miniers, et notamment dans cette réforme du code minier qui a donc été adoptée en 2011, il y a des clauses d'obligation de seuil minimum de partage des bénéfices. Il y a des clauses de protection, d'obligation de consultation des populations locales à toutes les étapes du projet, c'est-à-dire en amont, pendant le projet et à la fermeture du projet. Il y a des clauses, ce qu'on appelle des exigences de performance, c'est-à-dire d'emploi, par exemple, de la main-d'œuvre locale, de transfert de technologie, enfin toute une série de recommandations pour assurer que l'implantation de ces projets miniers se fasse déjà avec le consentement des populations sur place, bénéficie aux populations locales. Et que la dimension de ces exploitations soit à une échelle soutenable, c'est-à-dire que et corresponde également aux besoins des populations locales et non pas seulement à la demande mondiale. Alors, je dis ça, ça veut pas dire que je suis entièrement d'accord avec cette réforme-là. Mais il faut savoir que cette qui est une victoire des mouvements en Inde là-dessus, aujourd'hui est totalement mise à plat par l'accord de libre-échange qui est négocié entre l'Union européenne et l'Inde. Ou au contraire, qu'est-ce qu'exige l'Union européenne dans cet accord de libre-échange? C'est la clause du traitement national, c'est-à-dire pas de préférence entre les investisseurs européens doivent avoir les mêmes droits que les investisseurs nationaux. On ne peut pas mettre de différence pour privilégier l'implantation d'investisseurs locaux. Des limitations très fortes justement sur les exigences de performance. Après, sur les questions de non-diffusion de l'information au nom de la protection des intérêts commerciaux. Donc toute une série de mesures qui vient mais totalement balayer d'un revers de la main ce que les mouvements avaient pu gagner, même si c'était pas au niveau national. Et c'est ces questions-là où sans arrêt on est confronté à ça. Et sur la question justement de ce que je disais, est-ce qu'on sur cet acquis de la réforme du projet minier, le débat doit aller bien plus au-delà que de cette réforme du code minier, puisqu'elle doit aussi poser la question non pas seulement de la récupération de la rente extractive ou du consentement des populations locales, mais qui doit poser aussi, et on en a beaucoup parlé hier, sur quel modèle de développement on défend. Et je me rappelle, il y a 2 ans, le CETIM avait organisé un un symposium sur à qui appartiennent les ressources où on avait beaucoup abordé cette question justement de est-ce que la seule chose qu'on cherche c'est la répartition des bénéfices issus des activités extractives, est-ce que c'est uniquement des clauses de consentement des populations locales, qu'est-ce qu'il y a une question derrière de modèle de développement de non pas orienté uniquement sur les exportations, sur les investissements étrangers, mais quel type de développement qui ne soit pas uniquement économique, mais qui réponde réellement aux besoins des populations locales, avec une diversification des activités productives. Et c'est tout ce débat-là qui est en train d'émerger aujourd'hui en Amérique latine et qui est très important sur cette question de quel modèle on défend. Alors, j'ai mis un peu les pieds dans le plat, mais parce que justement, c'est sur ces questions d'alternatives, on est souvent confronté à ça, c'est-à-dire à la fois des populations locales qui doivent faire face à des pressions très fortes sur le moment, et puis à la fois défendre un modèle qui est beaucoup plus prospectif, qui est plus dans la durée de ce qu'on veut défendre. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a différents échelons avec des enchevêtrements comme ça qu'il faut analyser quand on parle des alternatives. Une autre question qui, je pense, est très importante, mais je m'attarderai pas là-dessus, c'est effectivement les systèmes, la relocalisation de la production. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la question de la souveraineté alimentaire, de l'agroécologie, et effectivement la réappropriation des moyens de production par les communautés qui font leurs preuves, et en tout cas de plus en plus de rapports viennent attester de l'efficacité de ces systèmes pour effectivement répondre aux besoins des populations locales et pas forcément le modèle agro-industrie qu'on voudrait nous imposer. Il y a aussi, c'est vrai aussi pour les questions de systèmes de gestion de l'eau, des ressources en eau. Alors c'est pareil, on a dans le rapport qu'on a présenté, il y a l'exposition d'un cas en Inde, dans l'état du Tamil Nadu, où il y a eu une association entre une collaboration, on va dire, entre les ingénieurs hydrauliques et les communautés locales pour remettre en place un système d'eau, et qui a fait tout à fait ses preuves dans une région où il y avait vraiment très peu accès à l'eau, en augmentant considérablement j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 60 millions de personnes qui ont pu avoir accès à l'eau, en réorganisant le système de gestion de l'eau par un partenariat entre les communautés locales et les ingénieurs hydrauliques. Donc on peut faire le parallèle par exemple aussi avec les semences participatives et tout ça. Enfin, on voit que en associant directement les populations locales, c'est beaucoup plus efficace pour répondre aux besoins des populations locales que en faisant appel à des systèmes de gestion privée, et que les systèmes de gestion privée répondent d'abord aux intérêts des entreprises. Enfin, et c'est peut-être là-dessus, donc ça a abordé dans le sujet, ça a été dit en introduction sur l'importance après de ne pas rester uniquement à l'échelle locale, mais comment on fait pour défendre ces autres modèles et réinvestir ces questions. C'est toute la question effectivement de l'intégration régionale, de penser dans d'autres schémas, parce que depuis les années 80, on nous a défendu le modèle de l'intégration régionale ouvert au service du libre-échange. Et puis on voit émerger, avec toutes les conséquences, donc un modèle qui est basé essentiellement sur les exportations, les investissements étrangers, le marché mondial, avec une très forte dépendance au marché mondial. Et aujourd'hui, il y a, depuis les années 2000, on voit émerger, ressurgir ce débat avec une réappropriation de ces questions d'intégration régionale, notamment avec nos amis d'Amérique latine qui ont développé des formes d'intégration régionale, non pas uniquement basée sur une approche économique, mais basé sur les questions de revendications politiques et intégrant des valeurs. Qu'est-ce que nos peuples ont besoin d'abord, que ce soit en termes de diversité culturelle, que ce soit en satisfaction des besoins fondamentaux. Donc, en repartant de ce socle-là et non pas des intérêts purement économiques, comme c'est le cas aujourd'hui dans les schémas d'intégration régionale que nous avons. Et ça, c'est vraiment un levier très important qu'il faut investir. Alors, je rentrerai pas dans le détail, mais effectivement, en Amérique latine, on a vu se mettre en place l'ALBA, donc c'est l'Alliance bolivarienne pour les peuples. On a vu se mettre en place, à travers ce regroupement, la Banque du Sud, avec tout un, alors qui est critiquable aussi hein, dans son approche, mais avec derrière toute une dimension de soutien aux activités régionales, au développement du marché régional, et également de d'autonomie, enfin de résistance par rapport aux forces, enfin au marché mondial. Donc voilà. Pour, je pense que je vais devoir conclure bientôt. C'est un des leviers qui nous semble essentiel à la fois pour pouvoir résister, promouvoir d'autres visions du développement, mais également développer d'autres, développer les marchés régionaux, développer appuyer également sur les savoir-faire locaux et non pas qui répondent uniquement à la demande mondiale. Donc voilà, donc on pense que effectivement c'est un levier sur lequel il faut s'appuyer. Et enfin peut-être pour conclure, je voudrais mentionner une initiative qu'il y a en Europe sur ce qu'on appelle l'Alternative Trade Mandate, qui sont plusieurs organisations européennes qui se sont réunies justement avec cette volonté d'essayer de non pas seulement de recenser ces expériences, mais aussi d'en tirer des principes fondamentaux pour définir une autre politique commerciale européenne. Donc sur tout un socle commun, en ayant une approche transversale, en reprenant plusieurs thèmes comme la question agricole, la question des droits de propriété intellectuelle, la question du travail décent, la question et en recensant les principes fondateurs de ces différents, enfin qui sont conduits à travers le monde, pour essayer d'avoir un socle de principes, enfin de redéfinir un autre mandat pour la politique commerciale européenne. Et ce travail-là s'inscrit soit dans un travail prospectif de long terme, mais également avec la perspective des élections européennes qui auront lieu en 2014. Et donc comment utiliser cette échéance effectivement pour sensibiliser davantage et la population européenne et les politiques sur d'autres manières d'envisager le commerce, non pas au service des intérêts des entreprises, mais au service des peuples.